Morey, live.
Avec Dominique Morey.
Un peu de positif dans notre vie.
Radio.
Je ne sais pas ce qui se passe au coin de Saint-Sacrement et Charest, mais assurément, il y a quelque chose dans ce coin-là. C'est complètement jammé dans les deux directions. L'accès au centre-ville par Charest ce matin, je dirais même que c'est au point de... Si vous voulez monter à Hauteville, là, ça vaut même la peine de rester sur Henri IV puis de passer vraiment soit par Chemin Sainte-Foy ou René Lévesque, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trafic qui est en train de s'installer. Charest, Saint-Sacrement, même sur Saint-Sacrement, sur le Dodelon, là, ça commence à être compliqué. La côte, ça semble être jammé aussi. Écrivez-moi au 88-670-9098 pour nous dire ce que vous voyez. Obtenez 20 ou 30 000 points chez Pharmaprix, une valeur de 20 ou 30 $. Ouvrez votre appli PC Optimum, magasiné et scanné dès aujourd'hui. Conditions dans l'application.
7h54. Antoine Joubert, salut, comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Très bien, t'es dans ton char.
C'est parfait. Je suis dans mon char, exactement.
Qu'est-ce que tu conduis, Antoine?
Ah, je conduis une petite Golf, rien de compliqué. Je me déplace ce matin vers Drummondville. Et puis, on conduit pas juste des voitures neuves, on conduit des voitures qu'on va réparer, sur lesquelles je travaille un peu. Fait que c'est ce que je fais ce matin.
Très bon. Bravo pour, encore une fois, la nouvelle édition qui vient de sortir, Guide de l'auto. C'est sorti en magasin avant-hier, si je ne m'abuse.
Exactement, exact.
En quoi il est différent des autres et qu'est-ce qu'il y a à retenir du guide dans sa confection? On lit sur les chars, là, ça reste un guide de l'auto, je comprends, mais on cherche toujours à s'améliorer, à se dépasser. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'édition de cette année, 2027?
En fait, est-ce qu'il est différent des autres? Il n'est pas différent de ce que le guide de l'auto fait depuis 61 ans. Évidemment que la formule s'est bonifiée au fil des années parce que en 68, 69, 70, il n'y avait pas 700 quelques pages dans le guide de l'auto. Mais il y a de plus en plus de modèles aussi. Sauf que le marché change. Il y a énormément de mouvements dans le monde automobile en ce moment, autant sur le plan politique que sur le plan du changement technologique. Bon, évidemment, au Québec, on parle énormément de l'électrification en automobile, alors ça en fait partie. Bon, par exemple, j'ai réalisé un match comparatif de VUS compact électrique dans le livre qui se qualifie aux subventions fédérales, donc sous les 50 000 $. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où les véhicules électriques deviennent plus accessibles parce que à l'époque pas si lointaine, c'est-à-dire à l'automne 2024, où on était fortement subventionnés et où les véhicules nous étaient vendus à des prix ridiculement élevés, ben le prix moyen d'un véhicule vendu au Québec avait explosé juste parce que on avait acheté des véhicules de 65 000 $ en quantité incroyable et qu'on avait ensuite profité d'un 12 000 de subventions. Mais c'est les constructeurs qui se sont mis de l'argent dans les poches avec des taux de financement presque usuraires à cette époque-là. On se battait aux portes parce qu'on croyait faire une bonne affaire avec un 12 000 de subventions. Puis on se rend compte aujourd'hui que avec des subventions sérieusement amoindries, ben les constructeurs ont des véhicules moins chers, plus agressifs, ils ont des stocks, les taux sont plus intéressants. Donc, il y a une compétition qui s'installe. Puis évidemment, cette compétition-là s'installe en vue de l'arrivée des constructeurs chinois qui va se faire dans la prochaine année. Alors, il y a un gros, gros mouvement en automobile en ce moment. C'est ce que vous allez sentir dans le guide de l'auto 2027, dans lequel on a voulu aussi injecter une dose de passion parce que le pragmatisme, les véhicules électriques, c'est bien beau, mais il y a aussi des amateurs qui achètent le guide de l'auto. Et ça, c'est un facteur très important. C'est pourquoi on est allé mettre une voiture sport japonaise en couverture et non pas un VUS électrique comme on l'a fait pendant plusieurs années. On voulait une sportive sur la couverture du livre. C'est rare que les Japonais lancent des hyper sportives et ça arrive cette année avec la GR-GT chez Toyota. Donc, on l'a mis en couverture. Et puis, en dos de couverture, vous allez aussi avoir la G90 Wingback de Genesis, qui, je l'espère, va entrer en production. Ça pourrait relancer les voitures familiales de performance qui se trouveraient ailleurs que chez les Allemands. Mais familial, c'est une nouvelle mode chez nous au Canada, aux États-Unis, mais que pour des voitures de performance. Est-ce que ça va se démocratiser? Je l'espère, parce que les VUS sont omniprésents présentement. Vous allez le voir dans le livre, là, il y a des VUS 13 à la douzaine. Évidemment, les voitures familiales pourraient faire un retour et ça pourrait passer par Genesis qui en ramènerait.
OK. Deux petites questions politiques, puis après ça, on retourne dans le livre, puis on jase de char, puis je vais te demander tes choix. Ensuite, on fera la pause et j'invite de ce pas les auditeurs à nous écrire leurs meilleures questions de char. Et Dan, mon collègue, va pouvoir te les poser après la pause. D'abord, Carney a aboli officiellement le mandat de vente d'auto électrique. Ça s'est fait un peu en douce, mais ça s'est fait. Est-ce à dire que la CAQ qui est là, ou le gouvernement futur québécois, devra faire pareil? Comment le Québec devra s'ajuster? Il faut suivre la parade, là.
Bien, en fait, le Québec est le mouton noir parce que on va à l'encontre de toutes les décisions qui sont prises actuellement en Amérique du Nord. Carney, évidemment, a pris cette décision-là, disons, comme forme d'appui au gouvernement Trump, peut-être, pour se rallier à ce que les décisions américaines ont été. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que ça a été fait de la bonne façon? Là, il y a mille réponses à ça. Mais évidemment, le Québec, ça va demeurer le mouton noir parce que les objectifs du Québec, c'est d'électrifier les transports parce qu'on a notre propre énergie. Puis là, ben évidemment, il y a plusieurs théories quant à la réglementation, quant à la sévérité du Québec sur les enjeux de véhicules électriques. On a reculé récemment sur des objectifs de vente. Mais encore une fois, ça, c'est un truc qui me fait tellement rire parce que on recule à un objectif de 80 % en 2035 au Québec, mais on a le temps d'avoir trois partis politiques qui vont changer d'idée six fois d'ici ce temps-là. Donc, la vérité, c'est ce qui importe cette année, l'année prochaine, dans deux ans.
Mais c'est un objectif qui est irréaliste. Antoine?
Bien, les objectifs sont irréalistes, surtout dans le contexte d'un marché automobile nord-américain qui est complètement à l'opposé de celui que le Québec veut offrir. Mais c'est aussi irréaliste dans la mesure où on demande à des constructeurs automobiles, à des concessionnaires automobiles, de s'ajuster de façon instantanée à la seule décision d'un gouvernement. Évidemment, les plans sont faits sur des années, sur des mois. Je parlais récemment à un concessionnaire, en fait, hier, à un concessionnaire Chevrolet qui est en furie vis-à-vis de cette décision-là parce que lui a commandé ses véhicules en fonction des lois qui sont en place. Et du jour au lendemain, on vient les changer. Et lui ne peut pas annuler ses commandes du jour au lendemain. Donc, devra vivre avec un inventaire de véhicules qui ne cadre plus avec la réglementation ou disons qui est drôlement moins compétitif ou attrayant sur le plan financier pour les consommateurs suite à des décisions gouvernementales. Donc ça, c'est un sérieux problème et on l'avait vu très sérieusement en 2024. Là. En 2024, c'était la folie. Les concessionnaires ont commandé tout ce qu'ils pouvaient commander de véhicules électriques à l'échelle canadienne et en janvier, les subventions sont tombées, autant au fédéral qu'au provincial. Et puis là, bon, on liquidait des véhicules électriques à des prix qui étaient 10, 15, 20 000 $ inférieurs à ceux qu'on payait six mois auparavant.
Je me souviens, donc, je faisais des lives, moi je suis porte-parole Ford, je faisais des lives de Mach-E à des prix complètement ridicules.
Oui, absolument, c'est ça. Fait que là, une autre décision qui vient chambouler les plans d'une industrie qui doit constamment s'ajuster. Mais je te dirais que on a appris, en fait, l'industrie automobile a un peu appris de ses erreurs et fait une pierre deux coups désormais en essayant justement d'y aller de façon plus modérée, en commandant ses véhicules, en choisissant ce qu'on va commercialiser. Et je te dirais même que à l'heure actuelle, on commence un peu à se ficher des décisions du Québec parce que le Québec représente 2,1% du marché automobile nord-américain. Ça ne pèse pas assez lourd dans la balance pour que on prenne une décision radicale qui va faire en sorte qu'un constructeur va choisir d'y aller avec un produit plutôt qu'un autre ou de placer des commandes en quantité industrielle. Alors, tu sais, ici, un Chevrolet Equinox électrique, ça se vend extrêmement bien. mais ne soyez pas surpris d'apprendre qu'on a cessé la production pendant plusieurs mois de ce véhicule-là à l'usine de Détroit, parce que si ici ça se vend, à l'échelle nord-américaine, c'est pas ça pantoute.
Non, c'est ça. Alors, puis là, tu as parlé des États-Unis, tu m'ouvres la porte rapidement, puis on va tomber des modèles après, les modèles que tu privilégies.
Ouais.
Trump, les négos. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y aurait maintien de tarifs concernant les véhicules fabriqués au Canada et exportés aux États-Unis. On serait à 15%. Ouais. Peux-tu nous parler de l'industrie, où ça s'en va? Comment l'industrie canadienne, qui est surtout basée en Ontario, va survivre et peut se développer dans ce contexte-là? Ton analyse, c'est quoi?
Elle ne peut pas se développer. C'est pas plus dur que ça. Moi, ça me fait extrêmement rire de constater que les constructeurs tentent des approches. Et on le voit là. Ford a mis 3 ans avant de finalement annoncer qu'on allait fabriquer des Super Duty à l'usine d'Oakville en Ontario, alors que pendant 3 ans, on nous a fait croire qu'on allait fabriquer des électriques. C'est pas arrivé. General Motors a fermé son usine de Cami à Ingersoll en Ontario, où on fabriquait des fourgons électriques, les Bright Drop, là, ce qu'on voit sur nos routes. Les bons camions, en plus. Bon, Volkswagen a mis sur la glace ses plans de fabrication d'une usine de batterie à Saint-Thomas. Honda a tirer la plug sur tout ce qui s'appelle électrification, incluant sa 3e ligne à Alliston. Et là, ben, les rumeurs sont très fortes à l'effet que Chrysler ou Stellantis vendent son usine du côté de Brampton en Ontario. Alors, il reste quoi en ce moment? Ben, il reste une usine qui fabrique des pick-up Chevrolet à Oshawa. Cette usine-là fabrique carrément du leftover, là, si tu me permets l'expression, de camions. Et le pire, c'est que tous ces camions-là qui sont fabriqués au Canada sont exportés aux États-Unis et nous, Québécois ou Canadiens, achetons nos pick-up Chevrolet du Mexique. Parce qu'on préfère au Canada vendre nos camions aux États-Unis et acheter des camions qui proviennent du Mexique. C'est un vrai foutoir. Ceux qui vont survivre, et ça, j'ai aucune crainte, c'est Honda et Toyota. Pourquoi?
Pourquoi?
Parce que c'est deux plans d'affaires complètement différents. Moi, en fait, j'ai même peur pour l'industrie auto américaine. Et je m'explique en disant que Honda et Toyota au Canada, ils ont des usines qui fabriquent des CR-V, des Civic, des RAV4 et quelques produits Lexus. Des usines où il y a respectivement 6 000 et 9 000 employés, là, grosso modo, chez Honda et Toyota, non syndiqués, et dont la viabilité est indéniable. Ce sont vraiment des usines qui roulent à fond de train, qui produisent des véhicules à grand volume, qui sont vendus aux États-Unis, c'est vrai, mais qui sont aussi vendus à fort volume au Canada. Le problème des autres usines qui font partie du groupe du syndicat d'Unifor, sont Stellantis, General Motors et Ford, c'est que les syndicats sont tellement puissants qu'on ne peut pas se revirer sur un dissous et décider de produire en fonction de la demande. Et c'est ce qu'on constate aussi aux États-Unis. Les gens se demandent actuellement, mais pourquoi Ford a arrêté la vente du Ford Escape? Tu sais, un Escape, c'est un véhicule à volume. On en vend 2 fois plus que des Broncos Sport, qui, lui, demeure sur le marché alors que l'Escape disparaît. Réponse simple. Le Ford Broncos Sport est fabriqué au Mexique. L'Escape est fabriqué à l'usine de Fairfield, si ma mémoire est bonne, aux États-Unis. Et on est tout simplement plus capable de rendre financièrement viable la fabrication d'un véhicule qu'on vend entre 40 et 50 000 $.
Donc, c'est le coût de la main-d'œuvre qui vient jouer. C'est le coût de la
main-d'œuvre. Le coût de main-d'œuvre aux États-Unis est tellement élevé en raison des syndicats, en raison des plans de pension, que de fabriquer des véhicules vendus à prix raisonnable aux États-Unis, c'est rendu presque impossible. Avec, pour preuve, tous les petits véhicules qu'on achète chez nous au Québec, là, nommez-les, là, Mazda 3, Nissan Sentra, plusieurs produits coréens, Hyundai, le Chevrolet Trailblazer, tous ces petits véhicules-là qui sont vendus, disons, entre 28 et 40 000 $, la grande majorité sont fabriqués au Mexique, en Corée ou au Japon, mais pas aux États-Unis. Ce qu'on achète qui vient des États-Unis, ce sont des Ford Explorer, des F-150, même les camions Ram sont faits au Mexique, là, mais qui coûte 60, 80, 100 000 $ ça, c'est fait aux États-Unis parce que il y a encore de la profitabilité. Puis évidemment, tout ce qui s'appelle Tahoe, Yukon, Expédition, c'est ce que les Américains veulent vendre. Ça, c'est payant. Il n'y a rien de plus payant pour les constructeurs américains que de vendre des camions pleins de grandeur et des VUS pleins de grandeur. Okay. Mais j'ai peur pour l'industrie américaine parce que ça s'en va là. Et là, avec l'arrivée des Chinois qui vont nous offrir des véhicules à prix beaucoup plus raisonnable, ben, ça pourrait être une sérieuse menace, pas juste pour l'industrie canadienne, mais pour l'industrie américaine aussi.
Okay. Allons-y rondement, Antoine. T'es quelqu'un, mets-toi dans la peau de quelqu'un d'ordinaire, budget très limité, OK? Tu veux quelque chose d'abordable, meilleure qualité-prix, on va le dire comme ça. Dans le VUS, OK? Rapport qualité-prix, papa, maman, deux enfants, la poche de hockey dans la valise. T'achètes quoi cette année?
J'ai envie de te dire un Honda CR-V. Là, je te parle évidemment VUS familial.
Oui.
Je pourrais te dire le RAV4, parce que le RAV4 est un véhicule qui va t'offrir un meilleur rendement énergétique, qui a une technologie qui est très au point. Là où j'ai un frein, c'est que le RAV4, même s'il est de fabrication canadienne, vous allez aller au concessionnaire, et il y a une certaine arrogance en ce moment parce que la demande est tellement forte face à l'offre que vous allez patienter 6, 7, 8 mois peut-être avant de mettre la main sur un RAV4 et vous allez l'obtenir à un taux de financement ou de location qui est très élevé.
Tandis qu'un CRV, il y en a dans le cours, Antoine.
Et voilà. CRV. Et les taux sont plus agressifs. On est pas mal plus parlable. Vous savez quoi? C'est un véhicule qui a rien perdu, tu sais, c'est générique comme présentation, mais en conduite, en polyvalence, en fiabilité, c'est extraordinaire. Et évidemment, là, je parle d'un hybride. Quand on achète un CR-V, on achète un hybride, on ne prend pas le modèle de base.
OK, ça, c'est important à retenir. Parfait. Petite voiture.
Et puis, si on s'en va dans une gamme un peu plus basse, mais toujours dans du 4 roues motrices, moi, c'est sûr que c'est la Subaru Crosstrek. Et particulièrement, vous êtes dans la région de Québec, là, une Subaru Crosstrek, c'est fiabilité, robustesse, agrément de conduite. C'est vrai que l'écran à l'intérieur s'est dépassé, puis t'as presque l'impression d'avoir un Vic 20 devant toi, là, que tellement, là, t'achètes pas une Subaru pour la dernière technologie, mais si tu veux un bon véhicule solide qui va durer longtemps. Et puis, je te dirais même, en location, ils sont hyper agressifs avec les prix. C'est dur de battre ce produit-là. Il y a une version hybride qui ne me convainc pas tant que ça dans la gamme Crosstrek, mais je te dirais que la carte cachée de cette année, ben, c'est pas une carte cachée, mais la nouveauté de cette année dans ce segment-là, qui est super intéressante pour moi, c'est le nouveau Kia Seltos. Très, très belle machine. J'ai conduit ça récemment. Il y a deux motorisations. Il arrive avec un hybride dans 3 mois. Ça va frapper fort. Ça va dépasser les ventes de plusieurs rivaux qui sont bien établis. Alors ça, c'est des produits intéressants. Puis, si vous cherchez une voiture, parce qu'il y a encore des gens qui achètent des voitures à traction, une Civic, là, ça fait un travail exceptionnel. La Corolla, ça fait un très, très bon boulot. La Jetta chez Volkswagen, qui malheureusement est menacée parce que mon petit doigt me dit qu'en 2028, il n'y en aura plus. Ça, c'est ma prédiction. Mais la Jetta 2026-2027, c'est une auto qui ne consomme rien, qui est une routière. Si vous faites beaucoup de kilométrage, que vous voulez avoir une voiture qui ne coûte pas cher à rouler, c'est une sacrée belle machine, même si elle a plusieurs années dans le corps, là, parce que la Jetta a été lancée telle qu'on la connaît, ça fait maintenant presque 7 ans. Mais c'est une très, très bonne voiture et malheureusement, elle est un peu condamnée dans la mesure où j'ai pas l'impression que Fox pourrait la renouveler, mais quelle bonne voiture.
Si on veut se gâter, y aller un petit peu plus cher, plus de luxe, la voiture, wow, d'Antoine Joubert. Tu sais, wow. Mais tu sais, pas besoin d'aller dans le Rolls-Royce, ils ont plus, là. Mais tu sais, quelque chose qu'on roule, quelque chose qu'on voit sur les routes quand même, là. Ton wow cette année, ça serait quoi?
Ben écoute, je vais y aller dans un VUS de luxe qui m'impressionne à chaque fois que je le conduis. On reste dans un peu rationnel, là, tu me diras, là. Mais un Genesis GV70, pour ceux qui sont tannés d'avoir des problèmes avec des Allemands ou un service qui est inégal, allez voir ça. C'est la réponse à tous ceux qui sont tannés de rouler des GLC, des X3, des Q5. Quoi que le Q5, c'est un produit que je recommande haut la main aussi, là. Mais Genesis G870, il s'en vend de plus en plus. C'est un sacré beau produit. Et regardez Genesis aller dans les prochaines années, ça va exploser, ça j'en suis persuadé. Ça va vraiment être impressionnant. Après ça, j'ai eu un coup de cœur cette année. Là, si on tombe dans l'un peu plus irrationnel, j'ai un coup de cœur cette année pour la nouvelle familiale AMG E53 chez Mercedes-Benz. C'est une hybride rechargeable de performance avec un look à couper le souffle. Le comportement routier de cette machine-là est exceptionnel. Et si on ne veut pas aller dans le hypersport, dans cette familiale-là, il existe aussi une version all-terrain qui est un peu l'équivalent de la... De l'ancienne Audi A6 All-Road. C'est vraiment... Ça, c'est un coup de cœur personnel, là. Évidemment que ça ne rejoint pas la masse parce qu'il y a bien des gens qui, rendus à 90, 100, 110 000 piastres, vont vouloir aller dans un VUS plutôt qu'une voiture familiale, mais ça permet de se démarquer. Puis tu as encore le vrai plaisir de conduire une voiture. Tu n'es pas dans un véhicule qui est trop haut sur pattes puis un peu impersonnel comme il y en a trop sur les routes. Moi, j'ai vraiment l'impression que les voitures familiales vont revenir et tu auras compris que c'est un souhait personnel aussi.
Et pas nécessaire de mettre des panneaux en bois sur les portes, là, quand on dit familial.
Non, ça peut être correct aussi. Ça, c'était pas beau dans les années 70. Moi, je rigole avec ça parce que oui, j'ai une voiture avec des panneaux de bois.
Ah, oui?
J'ai toujours dit que... Ben oui, j'ai un peu une voiture avec des panneaux de bois, un gros station wagon que je surnomme la grosse brune pour ceux qui me suivent, parce que c'est un gros station des années 70, brun avec des panneaux de bois. Il s'est pas fait grand-chose de plus que ça, mais aujourd'hui, c'est une mascotte. Tu roules avec ça, puis ça fait sourire. Mais non, ramenez pas ça.
Non, c'est bon.
Pas une bonne idée.
OK, là, on fait une très courte pause. Les questions commencent à s'accumuler. Antoine, ben, on a le privilège que tu puisses rester avec nous pour répondre aux questions par texto. Dan va prendre les meilleurs. Puis je sais que tu vas gonner ça comme le chum Marc le fait avec nous. Marc Bouchard, que tu connais là, dans le domaine de l'industrie. Vous êtes des gunners, là. Il n'y a pas de niaisage. On a la réponse. On a l'heure juste. C'est ça qu'on apprécie de Marc et de toi. On a l'heure juste. Il n'y a pas de tataouinage, puis il n'y a pas de gossage. On aime ça. Donc, tu restes avec nous autres. Les Livers, vous écrivez vos questions rapidement à Dan, 418-670-9098, et vous êtes dans More Live.
Le sentez-vous?
Live.
On revient dans pas long.
Radio X.